Bienvenue dans le Club des Hommes en Noir, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission avec comme invité le père Michel Viau qui est à droite du père si je puis me permettre, le père Danziek qui maintenant a pris quasiment son rond de serviette autour de cette table, l'abbé Claude Barthes.
À votre gauche.
À ma gauche.
C'est pas étonnant.
C'est tout dire, ça devient dangereux pour moi là. Et le père Jean-François Thomas.
À l'extrême gauche.
Voilà, à l'extrême gauche, oui. Mais il vaut mieux être à l'extrême gauche qu'à l'extrême droite, aujourd'hui.
Oui.
Dans la considération par rapport au monde.
Tout à fait. Vaut mieux être à gauche de l'abbé Barthes, surtout, je pense.
Merci, mon père, de votre présence. Nous allons traiter, je vais vous laisser traiter, c'est vous qui parlez, des anges. Pourquoi les anges? Bien, au mois d'octobre dernier, nous avons fêté les anges gardiens. Nous avons fêté Saint-Raphaël, en septembre Saint-Michel. Il y a une actualité aussi un peu douloureuse, malheureusement, autour justement d'une statue du prince de la Milice Céleste au Sable d'Olonne qui doit être enlevée sur décision de justice. Tout ça nous offre l'occasion de parler des anges que finalement on connaît peu, dont on sait peu de choses. Enfin, je parle pour nous, pauvres laïcs. On sait très peu quel est leur rôle, qui ils sont exactement. Et j'allais même dire, est-ce que les anges existent vraiment? C'est ma première question.
C'est un article de foi du credo. Je crois dans le monde visible et invisible.
Oui, mais le monde visible et invisible, ça, c'est vrai, vous avez raison de me le rappeler, mais le monde visible et invisible, ça reste peut-être un peu flou pour certains de nos contemporains. Surtout à une époque où on fête de manière assez étrange Halloween,
bien sûr,
les spectres, etc.
Ça, c'est affreux, ça.
Père Thomas voulait intervenir, je vois.
Oui, en fait, ce qui est surprenant, c'est que autant la croyance en Dieu est en diminution, autant la croyance dans les anges, alors reste à savoir ce qu'on définit par les anges.
Supranaturel.
Supranaturel se développe quand on va dans des librairies, par exemple. Dans les rayons religieux, il y a beaucoup de choses, alors sur l'ésotérisme, mais notamment sur les anges, des ouvrages qui ne sont absolument pas écrits par des croyants d'aucune religion monothéiste, d'ailleurs.
Vous voulez dire que les anges font recette ?
Les anges font recette, oui, bien sûr. Mais ils font trop recette, et ce n'est pas une chose nouvelle, parce qu'on voit déjà dans saint Paul qu'il est obligé de mettre de l'ordre. Parce qu'il y a certains chrétiens qui feraient passer les anges avant l'adoration de Dieu. Et il y a une angélolâtrie qui est rapidement condamnée par l'Église avec le concile. Alors c'est un concile certes provincial, mais de Laodicée en 363 ou 364, pour dire tout d'abord qu'on n'a pas le droit de donner un nom aux anges, sauf les trois noms révélés, donc les trois archanges. Tout simplement parce que donner un nom, c'est prendre possession de la chose ou de la personne. Dieu donne à l'homme le pouvoir de nommer les choses visibles dans la création, mais pas les choses invisibles. Les choses invisibles, elles appartiennent directement à Dieu. C'est Dieu qui peut donner des noms et qui peut les révéler aux hommes s'il le désire. Donc on a dans la révélation, dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, la présence des trois archanges, au moins de trois des archanges, Raphaël, Michel et Gabriel. Mais donc, et la tendance actuelle, en fait, y compris dans l'Église, hein, dans beaucoup de groupes, c'est de dire, ben non, je vais donner un nom, par exemple, à mon ange gardien, pour avoir une relation plus intime avec lui. Or ça a toujours été condamné par l'Église, justement, parce qu'on ne prend pas possession de ce que Dieu nous donne gratuitement.
Ça, c'est effectivement la frontière à ne pas franchir. Et je pense que l'ange gardien, c'est très important, parce que c'est l'intimité, c'est-à-dire que Dieu nous connaît, nous aime dans notre intimité, puisque nous avons un double dans le ciel, qui est aussi notre ange gardien. Et moi, je sais que ça a baigné toute ma piété, parce que dans l'Église luthérienne, puisque dans la prière du matin et la prière du soir, il y a « Que ton Saint-Ange veille sur moi ». Donc, on demandait à Dieu de veiller sur vous par l'intermédiaire de l'ange, dans le luthéranisme. Voyez. Donc, c'est l'extension, effectivement, du credo la création de l'univers visible et invisible. Et effectivement, il ne faut pas nommer les anges, parce que là, on passe, justement, c'est dépasser l'intimité, et c'est effectivement donner un pouvoir à l'homme qu'il ne peut pas avoir.
Alors, est-ce qu'on pourrait rappeler ce qu'est un ange exactement? Parce qu'on parle d'ange, d'archange.
Juste sur la nomination des anges, je voudrais...
Allez-y, monsieur.
Parce que sinon, après, j'ai visité le musée de Bogota, avec où il y a sept magnifiques statues des archanges. Et j'ai appris, à cette occasion-là, je ne me suis plus souvenu, j'aurais dû le noter sur un petit papier, le nom des autres archanges.
Oui, il y a Uriel, etc.
Qui est donné souvent par des révélations privées. Mais sur le fond, vous avez raison. N'empêche que, bon Dieu, on peut considérer que...
Comme il y a des démons qui ont
nous avons un moment historique, là. Pour une fois, c'est l'abbé Barthes qui est le libéral de l'étape. Et nous sommes très heureux de le noter.
Non, je m'appuyais sur les... pour une fois, c'est révélation privée. Mais pour expliquer qu'on a quand même parfois, sans jeter toutes les foudres de l'Église,
l'Église le condamne.
Au Concile de l'Odyssée.
Mais pas uniquement. Non, ça a été répété plusieurs fois dans le magistère qu'on ne devait pas nommer les anges. Et ce serait une chose à faire d'ailleurs aujourd'hui parce qu'il y a vraiment des débordements.
Est-ce qu'on peut rappeler ce qu'est vraiment un ange?
C'est un envoyé, c'est ce que veut dire le mot en hébreu. D'ailleurs.
Oui, c'est un messager.
Un messager.
Ça, c'est pour sa fonction, mais sur son essence, c'est un.
Oui, sur son essence spirituelle, sans corps.
C'est un. Un pur esprit.
C'est un pur esprit. Un
pur esprit créé par Dieu. Alors, à quel moment les pères de l'Église disputent, avant ou après la création des hommes, ou plutôt en même temps ou avant la création des hommes, pur esprit, créé comme l'homme en état de grâce.
Pour la gloire de
encore
Dieu.
Encore que, là aussi, discussion, est-ce qu'il n'y a pas eu un état naturel chez les anges? Et puis on sait, bon. Mais en tout cas, globalement...
De manière certaine, si c'est possible.
Et pour la gloire de Dieu, c'est ça. Et qui ont été, comme les hommes...
Soumis à une épreuve.
Pour entrer dans la gloire de Dieu.
Donc de ce fait, si je comprends bien, les démons sont des anges, qui sont les fameux anges déchus.
Les anges qui ont pris le côté obscur de la force. Voilà.
Dont on connaît le nom.
Depuis un moment, il pour le sortir.
Et les anges des communautés. Il y a les anges des communautés, par exemple. C'est intéressant de voir dans l'Apocalypse les lettres aux églises, à l'ange. Alors là, les anges des communautés, c'est aussi une notion très importante.
Oui, c'est vrai, c'est très important.
L'ange des nations.
L'ange des églises.
Et alors, parce qu'on ne peut pas aller contre... Justement, ça montre toute l'importance d'une communauté, ça joue pour la nation, pour l'église, pour la famille. Il y a les conditions dans lesquelles elle a été créée, son ange en quelque sorte. La façon dont s'est construit son ange est très importante, parce qu'ensuite, si elle vit d'une façon contraire à ce pourquoi son ange a été fait, elle se casse.
Elle n'est plus protégée, vous voulez dire?
Elle n'est plus protégée, elle se casse. Elle ne peut pas continuer. Et ça, voilà une grande méditation qui fait le lien avec ce que nous disions la semaine dernière à propos de la France et de l'Église. L'ange de la France, il est quand même très lié à l'Église catholique.
C'est le même.
Je pense que c'est le même, voilà.
Moi, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit le père Thomas sur la problématique de la fascination aujourd'hui pour les anges. Ou de l'angélo-sentimentalisme, même dans l'univers chrétien catholique, c'est qu'on retrouve encore une fois la vérité qui est la suivante, c'est que la nature a horreur du vide. Et quand l'autorité manque d'évoquer, de parler, de s'appuyer sur ces puissances angéliques, ces puissances invisibles, mais tout aussi réelles, je rappelle qu'en 1912, tout l'épiscopat s'est rassemblé au Mont-Saint-Michel pour consacrer la France à l'archange Saint-Michel, avec la phrase suivante, « La France reconnaissante, aujourd'hui comme autrefois, vous honore sur la montagne sainte que vous avez choisie. Archange victorieux, ranimez nos ardeurs et communiquez-nous la flamme qui fait les âmes justes et les peuples vaillants. » C'est des phrases qui sont enthousiasmantes à entendre, c'est d'époque. Mais surtout, il n'y a pas de peur à invoquer ces puissances angéliques pour nous protéger. Je rappelle que la nature a horreur du vide et qu'aujourd'hui, il y a une sorte de fascination pour l'occultisme, pour donc toutes ces puissances invisibles. Alors, les gens ne savent pas exactement si elles sont bonnes ou mauvaises, et évidemment que le diable se mêle à travers tout cela pour apparaître comme une puissance invisible, protectrice, avantageuse, mais souvent ça se retourne contre les personnes qui les invoquent. Première chose.
Toujours.
Comment? Oui, toujours. Oui, vous avez raison de, le préciser. Et je crois que ça devrait évidemment nous interroger chacun d'entre nous sur de la part belle qu'on laisse à ce dévoiement de la piété à l'endroit des anges qui, je le rappelle, sont des serviteurs de Dieu. C'est pour ça que les neuf cœurs des anges, distingués notamment par saint Thomas d'Aquin, qui sont implorés à l'occasion de la préface dans l'Ancien Missel, les trônes, les dominations, les puissances, etc. C'est toujours très, très, très solennel, et de savoir qu'ils sont là, mais pour nous aider à servir Dieu, comme les saints sont là pour nous aider à devenir les amis de Jésus.
Il y a une situation paradoxale quand même, si je vous comprends bien, c'est qu'à la fois vous regrettez que l'Église, les représentants de l'Église plus exactement, ne fassent plus référence aussi souvent qu'autrefois peut-être aux anges et se confient ou confient les communautés dont ils sont responsables aux anges, et en même temps vous dénoncez avec le père Thomas une situation qui fait qu'aujourd'hui il y a plus de... On donne peut-être une place de...
Parce que la nature a horreur du vide, et donc du coup, comme il y a ce manque, j'allais dire, d'orthodoxie quant à la question de la piété à l'endroit des anges, elle peut se trouver dévoyée par une piété populaire de prime abord un peu honnête, mais pas très sûre d'elle. D'ailleurs, parce que aussi, ça demande de dépasser une certaine crainte mondaine aujourd'hui. Invoquer les anges, quand vous êtes diplômé de grandes écoles, etc., ça peut paraître un peu curieux. Je rappelle, l'émission Enquête d'esprit sur CNews a été le sujet de grandes moqueries publiques, parce qu'ils ont fait une émission sur les anges au moment de la Saint-Michel, donc au mois de septembre, et il y a un député de la France insoumise qui a dit aujourd'hui sur le service public, regardez cette bande d'arriérés qui parle des anges, enfin c'est du grand n'importe quoi, etc. Voilà.
C'est News n'étant pas.
Mais il devrait trembler pour en plus.
Oui,
un
service capitaliste, mais pas public.
Il a tort. Parce que son électorat, qui est maintenant, comment dire, la base populaire française, ouais, croit aux djinns. Je parle des musulmans.
Ah oui, oui,
donc,
oui.
Les djinns, si vous pouvez.
J'étais là, moi, j'étais au Lévis, mais en fait, non, c'est autre chose.
Oui, on pense... Les djinns, ce sont des esprits mauvais.
Toujours
mauvais.
Oui, toujours mauvais, oui.
D'accord.
Mais ils croient aussi aux anges, hein, bien sûr, dans l'islam.
Notamment.
Comme dans le judaïsme. Donc,
Mais moi, je plains sincèrement le député qui a parlé contre Saint-Michel. Il ne tardera pas à s'en rendre compte qu'il a fait une grosse erreur.
Oui. En fait.
Dans ce monde ou dans l'autre.
Dans cette réaction d'hommes politiques, ça a été aussi la réaction de beaucoup de personnes au sein même de CNews, hein, des esprits forts, mais qui ensuite sont revenus un peu sur leur premier mouvement. Parce que, bon, l'homme réfléchit. Donc, oui. Tourner comme ça en dérision des puissances qui, si elles existent, ne nous appartiennent pas.
Sur lesquelles on n'a pas de poids et de pouvoir.
C'est peut-être un peu dangereux.
Le pari Pascalien.
Donc les esprits forts sont moins forts qu'ils ne le laissent paraître dans un premier temps.
Oui, tout à fait.
Oui, mais oui, d'autant que ces anges, pour en revenir à ce qu'ils sont, toute la doctrine catholique, enfin généralement, toute la théologie affirme qu'ils sont extrêmement nombreux. Le raisonnement de saint Thomas étant de dire que Dieu crée davantage de choses belles que de choses moins belles, et donc les purs esprits étant plus beaux que les esprits unis à un corps, il y a, je ne sais pas s'il y a infiniment, mais enfin beaucoup plus d'anges que d'hommes, que de créatures humaines. Et par ailleurs, que ces créatures spirituelles sont d'une très grande puissance, bien plus puissantes, bien plus que... Ils parlent de la manière dont elles peuvent agir, qui est très fort. En effet, c'est quand même très dangereux de s'opposer à ce qui forme la partie la plus importante de la création.
Et sur la dimension extrêmement nombreuse, on parle des myriades d'anges, il y a une question liturgique qui se pose, c'est que quand on célèbre la messe, moi je ne manque pas de le dire à mes fidèles pour les...
Vous ne manquez pas de célébrer la messe ?
Non, je ne manque pas de célébrer la messe, grâce à Dieu. Enfin, bon, voilà, puis ça ne me regarde que moi et mon confesseur, voilà. Permettez-moi. Mais surtout, je ne manque pas de 12 pieds de temps en temps, mais mes chers fidèles, pour les inviter à assister à la messe en semaine, tout en leur disant que qu'ils ne viennent pas juste pour, par sollicitude pour moi-même, qu'ils me retrouveraient seul en célébrant la messe. Parce que je suis avec les anges. Les gens sont suspendus au balcon du ciel. Il y a l'ange gardien de chaque autel qui a été consacré dans la liturgie, l'ange gardien de chaque église qui a été édifiée dans cette fameuse messe incroyable, Terribilis Locusiste, la plus belle messe, moi je pense, du missel sur la messe qui consacre une église, avec une cérémonie très ample, où justement toutes ces puissances invisibles sont extrêmement présentes. Voilà, je crois que ça, c'est important de le souligner. Et dans un autre domaine, je pense que on ne voit que trop aujourd'hui, c'est pour ça que la piété sur les anges est peut-être très importante. Il faut inviter ceux qui nous regardent à se tourner pieusement dans un sens catholique vers leurs anges, vers les anges, leur ange gardien particulièrement. C'est qu'aujourd'hui, il y a une banalisation de la sorcellerie. Je vous renvoie à cette fameuse tribune en 2019 dans le JDD, Sorcières de tous les pays, unissez-vous. Vous aviez, à l'époque, vous aviez Sandrine Rousseau, Marlène Schiappa, Charlotte Gainsbourg, vous aviez Ina Tchenko, la responsable des FMN, excusez-moi, enfin, en guise de litanie, on fait plus avantageux, je pense,
chacune
pour la
vie spirituelle.
Chacune avec son balai. Mais c'est quand même délirant, vous voyez. C'est-à-dire qu'à la fois, on se moque d'une émission qui parle des anges, et en même temps, on aurait le droit de se prétendre sorcière. Marlène Schiappa, quand elle était ministre, avait quand même fait une interview dans le magazine Elle, en disant qu'elle était très fascinée par l'univers de la magie et de la sorcellerie.
Écoutez, enfin, c'est très exactement comme vous dites.
Ces origines corses n'y étant pas pour rien.
Les gens qui niaient la transsubstantiation et qui, en même temps, voulaient transformer du plomb en or.
Ouais, c'est ça.
Et avoir la plante de la jeunesse éternelle et de l'éternité. C'est exactement ça.
C'est la chanson des frères Jacques avec la petite queue du chat.
Et voilà. Les mêmes opposants actuellement, enfin ceux qui tournent en dérision la possibilité de l'existence des anges, sont ceux qui vont croire aux extraterrestres et qui sont très fascinés par les dinosaures qu'on reconstitue à partir d'une dent.
Oui, mais tout ça est aussi angélique, en quelque sorte, c'est la face noire des anges.
C'est ça, c'est la face noire.
Ce sont les démons qui eux aussi existent, voilà. Qui eux aussi sont très puissants, et qui, en effet, auxquels on croit parfois, alors qu'on croit... Le duc d'Orléans, le régent, ne croyait pas en Dieu, mais allait dans les carrières de je ne sais où, dans les environs de Paris, pour invoquer le démon, raconte son ami.
Il ne croyait pas en Dieu, mais
il croyait à la puissance du démon, oui. Et en effet, le démon a une puissance d'autant plus grande, évidemment, à la fois qu'on ne s'occupe pas, enfin qu'on n'y croit pas vraiment, et surtout qu'on ne croit pas aux puissances de Dieu. Et à tout,
un chiffre qui dit beaucoup de choses, et qui devrait tous nous stimuler, y compris ceux qui nous regardent, pour avoir le zèle du Christ, aujourd'hui en France, il y a plus de 50 000 personnes qui sont astrologues, que vous pouvez appeler, qui ont une place, pour, c'est leur métier, déclaré, auto-entrepreneur, astrologue, plus de 50 000. Donc il y a à peu près 15 000 prêtres en état d'activité. Et je pense qu'en plus, la moyenne d'âge entre les astrologues...
Donc il y a plus d'astrologues que de prêtres aujourd'hui en France.
Et la moyenne d'âge des astrologues est certainement très différente de celle du clergé français.
Y a beaucoup d'étudiants qui sont astrologues à mi-temps, en fait, pour se faire
de l'argent. Ça montre bien que le peuple français est en exil à Babylone, puisque les astrologues étaient les prêtres.
Mais oui,
et donc voilà, donc ils ont leurs prêtres. Voilà, peut-être que M. Macron voudra un jour être le grand prêtre, le Pontifex Maximus.
Peut-être consulte-t-il, comme le président Mitterrand, consulte-t-il les astrologues, peut-être.
Mais l'abbé Barthes soulignait quelque chose, à mon avis, de très intéressant, c'est qu'en effet, pour ceux qui nous regardent, que chacun doit se rappeler que les anges sont là, ils sont très prompts à nous protéger, à nous aider, à nous accompagner, à nous encourager, à rester dans le droit chemin, suivant l'image un peu d'Épinal de l'ange qui tient la main du petit enfant. Et à droite et à gauche, il y a un fossé, il y a du trouble, il y a de la confusion. Et lui, il est là au milieu. Et c'est ça ce qui se passe aujourd'hui, dans la confusion des temps présents. Eh bien, invoquons nos anges, récitons les litanies des saints anges, les litanies de l'archange Saint-Michel, la prière à Saint-Michel tous les jours. Je rappelle que l'ange Raphaël est celui qui montre le bon chemin. L'ange Gabriel est celui qui nous donne la capacité à donner la bonne nouvelle, à la diffuser autour de nous. Et l'ange, l'archange Saint-Michel, lui, est celui qui nous aide évidemment à rester fort dans le combat de la foi. Donc, et humble aussi, digne, humble et fort. Donc c'est beaucoup d'enseignements pour chacun d'entre nous.
C'est le chef de l'armée des cieux. C'est pour ça que ceux qui l'attaquent de face et de front, vraiment je les plains. Non mais je l'ai dit comme je pense. D'autant plus que je porte ce prénom. Je les plains. Je les plains sincèrement. Et je les invite au repentir. Mais je le dis sans rire. notamment à celui de la France insoumise et à ceux qui veulent, au Sable d'Olonne, fiche en l'air cette
situation. On va en parler justement, mais un petit peu auparavant, le père d'Anziek a évoqué les différentes hiérarchies des anges. Pourquoi est-ce qu'il y a ces termes un peu différents, les dominations, les principautés?
Parce qu'ils se trouvent dans la Sainte Écriture, notamment chez saint Paul, en plusieurs endroits, et ils ont été repris par des pères de l'Église. Le plus important, je crois, en l'espèce, étant saint Grégoire, qui a établi...
Ne mourrez pas en direct, s'il vous plaît.
Je me concentre sur ces...
Il y a les anges de la face aussi, qui sont très importants. C'est à partir de là qu'on peut... Parce que ceux-là, ils voient la face complète, enfin, ils voient complètement la face de Dieu. Et c'est très important, cette notion de voir la face de Dieu, puisque même Moïse n'a pas pu la voir.
C'est ce que dit Raphaël à Tobie. Voilà. Alors, ceci étant, c'est hiérarchie, et c'est le plus exactement l'organisation des hiérarchies n'est pas de foi.
Oui.
Mais elle se trouve dans la liturgie.
Notamment, après, c'est évidemment saint Thomas d'Aquin qui a articulé ça. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est le docteur commun, c'est pas inutile de le rappeler, mais c'est son nom aussi, c'est le docteur angélique.
Angélique.
À cause de ça. Voilà. Docteur angélique, parce
qu'il
a.
Pour cette raison
des neuf cœurs des anges qu'il a articulé, qu'il a établi, mais en effet, c'est pas une vérité en soi de foi, mais
en tout cas pas pour l'instant.
Oui, voilà.
Est-ce que dans l'Ancien Testament, parce que vous avez parlé de saint Paul là par exemple, on a parlé de la liturgie, est-ce que dans l'Ancien Testament il y a une présence importante
des anges? Oui, certes.
Et
des
anges, Raphaël, vous avez parlé de Tobie, voilà.
Mais d'autres.
Il y a même cette chose extrêmement frappante, c'est dans le livre des Nombres, Balaam qui doit aller maudire Israël. Et puis qui veut pas y aller parce qu'il a quand même des révélations. Puis finalement, il y va quand même. Et puis il est arrêté sur le chemin. Et c'est son âne qui voit l'ange. Voyez-vous, l'âne.
Et pour quelle raison?
Parce que Balaam a désobéi à Dieu.
Parce que l'âne, celui qu'on croit. C'est ça le message.
Balaam, finalement. Il aurait dû écouter cette voix intérieure qui lui disait de ne pas aller maudire Israël. Donc il cède à son roi, et à ce moment-là, l'âne voit l'ange avec son glaive, et l'âne ne veut pas avancer, évidemment, et il bat, et c'est à ce moment-là que l'âne, du coup, lui parle. Et c'est très important sur le plan, parce que la parole, c'est pourtant le propre de l'homme. Mais voilà, un homme qui est programmé, comme Balaam, pour obéir à Dieu.
Et qui ne le fait pas.
Et qui fait le contraire. Et qui obéit au prince de ce monde. Enfin, un prince de ce monde, eh bien, il perd la parole. Il ne voit pas les choses qu'il doit voir. Et c'est l'âme qui lui parle. Je pense que les ecclésiastiques devraient.
Et vous parlez du glaive. Oui, là, il y a aussi au tout début de la Bible, dans la Genèse, le glaive de l'ange qui empêche de rentrer dans le paradis terrestre après le péché.
Voilà, donc,
et puis, il y a les. On ne les appelle pas toujours anges, mais parfois fils de Dieu. Donc les fils de Dieu qui se trouvent autour de Job.
C'est la cour de Dieu, dans la cour de Dieu.
Avec ce passage extrêmement difficile, il faut le dire, dans la Genèse, des fils, des filles, des hommes qui...
Genèse 6, oui, c'est le fils des hommes et des... Oui,
alors,
oui.
Que personne ne s'interprète.
Ah, ça, c'est effectivement ce qu'on... Oui, c'est ce qu'on appelle la chute des
anges.
Vous pouvez
redire la citation.
Mais oui, merci,
Genèse 6.
Et c'est qui dit quoi?
Eh bien, qui nous parle des...
Quand
les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, ils s'unirent à elles et ça donna les héros.
Les héros.
Donc, ça, c'est un passage extrêmement difficile. C'est une des croix des exégètes de ce passage.
Oui. Et puis, il y a aussi la visite des trois hommes qui sont trois anges à Abraham, donc, qui est une figure de la Sainte Trinité, déjà.
Il n'en aura qu'un seul.
Oui. Et aussi la présence de la conscience de la hiérarchie entre eux, parmi les anges. C'est lors d'un épisode de bataille, je ne sais plus quelle bataille dans l'Ancien Testament, il y en a tellement, où Raphaël, en fait, dit que lui, il est impuissant, mais qu'il faut faire appel à une puissance supérieure, à savoir Saint-Michel. Donc même entre les archanges, il y a une reconnaissance
cette
de hiérarchie.
Oui. Oui. Ça, c'est très intéressant, oui. Effectivement. Mais preuve que ce discours sur les anges n'est pas juste une question chrétienne, elle s'insère vraiment dans toute la tradition biblique.
En plus, allez-y, non,
la Bible est chrétienne.
Oui,
Oui, non, mais bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est pas juste les théologiens, on parle de Saint Thomas d'Aquin, ou les papes comme Grégoire le Grand.
Y compris les apocryphes, puisque dans l'épître de Saint Jude est cité un passage d'apocryphe, vous savez, où c'est Saint Jude ou Saint Jacques, Saint Jude, je crois, de la dispute de Saint Michel avec Lucifer au sujet du corps de Moïse. C'est Saint Jude, n'est-ce pas? Et qui est pris donc dans un apocryphe.
Et on dit souvent, quand on parle de discussion théologique qui ne mène à rien, que c'est une discussion sur le sexe des anges.
Tout à fait.
Donc les anges sont toujours présents, voilà, même si c'est pour les tourner en ridicule ou pour dire que la discussion ne va nulle part.
Il y a un fondement historique à cette expression.
Alors en effet,
elle fait référence à quelque chose
à quelque chose d'historique, mais c'était à l'époque byzantine. Donc,
on parle de querelle byzantine.
De querelle byzantine aussi, sur le sexe des anges. Voilà. Et pendant ce temps, le monde s'écroule et ce sera la défaite de la Byzance chrétienne.
L'évangile, le Christ lui-même dit, excusez-moi, je vous le dis, à propos justement du mariage, que dans le paradis, il n'y aura ni homme ni femme, enfin plus exactement pas de mari, pas de femme, positif, négatif, ils seront tous comme les anges de Dieu, sans sexe par conséquent.
Donc oui, qui reste un modèle, donc l'ange là est un... Est
oui
un...
mais parce qu'attendez, il ne faut pas sortir le texte de son contexte là, ce texte là...
Ah oui, luthérien.
Il est dirigé contre les Sadducéens qui posent une question idiote sur ce qui sera dans le royaume des cieux avec la dame qui a eu sept maris, de qui sera-t-elle la femme. Et la fin de l'histoire, c'est que finalement, pour les Sadducéens, la vie éternelle, c'était se reproduire sur la terre et uniquement sur la terre. Mmh. Et la réponse, en fait, de Jésus, c'est de dire, mais... Il n'y a pas besoin de reproduction ni de mariage dans le royaume des cieux, puisque quand on est dans le royaume des cieux, on y est pour l'éternité, on a le corps de gloire. Voilà. Et il les prend de front. Là. Donc, c'est important ça, parce que quand on a, par exemple, des deuils de vieux époux, surtout, parce que quelquefois, quand c'est des plus jeunes époux, ils se sont débarrassés de leur femme ou de leur mari, ils ne sont pas... Ah ben, si, ça existe, ah, bon, on ne peut pas nous raconter...
Surtout
des vieux époux, où c'est terrible, le départ de l'un, souvent on entraîne le départ de l'autre. Alors, il y a cette inquiétude de dire, mais Jésus a dit qu'il n'y aura plus de mari et de femme dans le royaume de Dieu, alors je ne retrouverai plus comme mari. C'est pour ça que c'est important, je dis, de resituer dans son contexte, c'est-à-dire que ce lien du mariage, il ne sera pas aboli, il sera vu autrement, mais pas sous l'angle de la reproduction. Voilà.
Je voulais dire qu'enfant, moi j'avais été très marqué dans le récit évangélique où on demande, le Seigneur demande le nom au démon et il dit « Mon nom est Légion ». Voilà, c'est cette masse, vous voyez, qui est vraiment impressionnant, avec après ce troupeau de porcs, voilà, qui va se jeter en nombre incroyable du haut d'une falaise, etc. Donc c'est des images évidemment qui sont saisissantes, je crois, pour notre piété à tous, et qui doivent nous, ces images nous invitent à nous nous tourner vers les bons anges. Voilà, je voudrais faire deux points complémentaires. C'est que aujourd'hui, on voit cet empire de la laideur qui nous entoure.
Qui est diabolique.
Qui est diabolique, voilà. Qui est un peu une visage diable dans les mœurs de la société, la façon de se tenir. Là, l'autre jour, je regardais sur les réseaux sociaux une image dans le métro dans les années 50. Et, bah oui, je le dis publiquement, c'était mieux avant. Voilà, ça c'était mieux. Je suis venu en métro là ici. Bah, je pense que c'était mieux le métro dans les années 50 qu'aujourd'hui. Enfin ça, je pense que beaucoup seront d'accord avec moi. Et le deuxième point complémentaire, au-delà de cette laideur, d'ailleurs Balzac a la fameuse phrase, le beau c'est le vrai bien habillé. Hein, donc on voit que cette laideur est l'image aussi du mensonge dont le diable est le père. Et le deuxième point complémentaire, c'est, vous avez parlé donc de la statue au Sable d'Olonne de Saint-Michel qui veut être déboulonnée avec ces sociétés de libres penseurs qui en font un cheval de bataille, évidemment. Je rappelle que la petite Lola, qui a été donc lâchement et sauvagement assassinée, Georges Fenech, le magistrat, soulignait qu'on peut voir quand même derrière ce meurtre abominable, à des rites sataniques soufis, ou je faudrait vérifier exactement ce qu'il a dit, mais en fait de rituels très particuliers liés à d'autres religions, d'autres croyances, mais qui elles-mêmes ont leur lien avec ces puissances spirituelles.
Oui, pour apaiser les djinns, justement.
Exactement, oui. Voilà.
C'est ce que vous vouliez dire ou
Non, alors je voulais dire qu'il ne faut pas oublier non plus la présence des anges, des bons anges dans la vie de notre Seigneur. Ceci, dès sa naissance, et puis à des étapes très importantes, comme par exemple la tentation au désert, où les anges le servent et le consolent, évidemment, à la fin, lors de son agonie.
Et ce sont Gethsémani.
Oui, Gethsémani, et puis ce sont des anges aussi qui annoncent la résurrection.
Oui, très beau.
Voilà,
très,
ils sont très présents à chaque étape essentielle de la révélation.
Alors, cette affaire de la statue de Saint-Michel au Sable d'Olonne, vous avez rappelé que c'était des laïcs, en fait, qui voulaient...
je connais bien le dossier.
Qui voulaient faire enlever de cette statue. Mais est-ce que c'est parce qu'ils ont un regard à l'envers sur ce que représente Saint-Michel? C'est-à-dire que, d'une certaine façon, est-ce qu'il croit vraiment que cette statue représente un esprit qui peut menacer ce à quoi il croit? Ou c'est un aspect juste symbolique qu'ils veulent faire disparaître? Mon père.
Bah, il faut